Vous écoutez
RMC.
Vous avez choisi RMC, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Toute une journée à attendre pour les supporters du Paris Saint-Germain. On est au matin de la demi-finale retour de Ligue des Champions, Paris contre Dortmund. 90 minutes pour obtenir un ticket pour la finale de cette Ligue des Champions. La situation ce matin dans la bande de Gaza. L'armée israélienne annonce à l'instant avoir pris le contrôle du point de passage vers l'Égypte, à la frontière dans le sud de la bande de Gaza après ces bombardements dans la ville de Rafah. Et puis entre 4 et 6 milliards d'euros, voilà ce que vont coûter les ponts du mois de mai, selon l'INSEE.
Oui, ça va coûter, mais ça peut aussi rapporter gros au secteur du tourisme. Et c'est le parti pris, juste après votre journal, Quentin. La journée va être longue pour les supporters du Paris Saint-Germain et notamment mon voisin là, Charles.
Oui. Alors on rappelle pour tout le monde les enjeux et le contexte. C'est donc la demi-finale retour de Ligue des Champions. Ce soir, Paris contre Dortmund. Paris qui a perdu 1-0 la semaine dernière au match aller. Jean Rességuier, c'est vous qui allez commenter le match ce soir sur RMC en direct ce matin. Jean, vous nous dites que malgré la défaite la semaine dernière, encore une fois, les Parisiens sont confiants ce matin.
Pour preuve, la positive attitude de l'entraîneur parisien qui pour une fois s'exprime dans notre langue avec un large sourire. On va gagner, c'est la seule phrase que je connais en français, s'amuse Luis Enrique devant les médias hier en le répétant deux fois. Et en tout cas, les joueurs du PSG qui étaient au repos en Ligue 1 ce week-end n'ont pas ménagé leurs efforts au campus de Poissy. On a beaucoup parlé, travaillé depuis le match aller, une précision du capitaine Marquinhos, un gros travail tactique, notamment ces dernières 48 heures, avec des journées consacrées à la défense et à l'attaque, pour que chacun sache parfaitement ce qu'il doit faire au regard de certains oublis à Dortmund. Et puis, l'occasion est trop belle de se qualifier pour une finale de Ligue des Champions devant son public dans un stade chaud bouillant. Les Parisiens devront avoir le sens du sacrifice ce soir pour que Wembley, théâtre de la finale, ne soit pas qu'un rêve.
Oui, ça fait 29 ans qu'il n'y a pas eu de demi-finale de Ligue des Champions en public au Parc des Princes. Ce sera plein ce soir à Paris. 47 000 personnes pour encourager le PSG.
Le parc, c'est mythique de base, mais alors c'est plus mythique, ça va être légendaire ce qui va se passer.
Rien que quand Dortmund a 4000, c'est nous qui faisons le plus de bruit, alors ils sont pas prêts. Hein.
Tout le monde l'attend, hein, supporter, staff, même joueur, donc ça serait quand même vraiment dommage de louper cette finale, ça serait un échec.
C'est écrit, c'est Paris la finale, Paris contre Madrid, c'est écrit.
Voilà pour l'ambiance, voilà ce que ça donnera, l'ambiance ce soir au Parc des Princes, soirée spéciale sur RMC, en direct du Parc des Princes de 18h jusqu'à minuit et demi, et la libre antenne de l'After dans la foulée jusqu'à 1h30, le match à la radio, vous le savez, sur RMC et aussi à la télé sur RMC Sport 1. Pour l'heure, il est 8h03 ce matin sur RMC, la situation est la suivante dans la bande de Gaza, l'armée israélienne vient de prendre le contrôle du point de passage de Rafah à la frontière avec l'Égypte. La ville est bombardée depuis cette nuit, elle est considérée comme un des derniers bastions du Hamas, le mouvement palestinien qui a accepté hier soir une proposition de trêve, proposition jugée insuffisante par Israël. Les négociations doivent se poursuivre, les pourparlers qui vont continuer en Égypte aujourd'hui. En attendant, ce matin, plus d'un million de Gazaouis dans la région de Rafah vivent donc dans la confusion avec cette annonce de trêve acceptée hier soir par le Hamas et les bombardements israéliens qui continuent. Caroline Philippe.
Depuis la maison de sa sœur au nord de la ville.
J'attends bien les attaques. On attend toujours les avions.
Asma s'est réfugiée là, après avoir fui Khan Younes.
C'est dur, dur.
La nuit, les cauchemars et la journée, le ventre noué par la peur d'une offensive israélienne au sol.
Si ils vont faire une opération ici à Rafah, alors on est obligé de rentrer à notre appartement. C'est vrai que les conditions à Khan Younes sont trop difficiles. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité.
Hier, c'était la confusion dans les rues de Rafah. Depuis sa fenêtre, Asma a d'abord vu des dizaines de voitures fuir, puis la liesse au moment où le Hamas annonce accepter une proposition de trêve, toujours pas validée par Israël.
C'est de la politique. C'est un jeu entre le Hamas et l'Israël. Moi, je n'ai pas de confiance aux deux côtés, mais on prie. On souhaite bien que les choses s'arrêtent. parce que c'est insupportable.
Hier, une partie de sa famille, ses tantes, ses oncles ont quitté l'est de la ville juste avant que la zone ne soit bombardée par l'armée israélienne.
Et personne ne peut nier la déferlante antisémite. Voilà ce que disait hier soir Gabriel Attal lors du dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Le Premier ministre donnait ce chiffre hier soir. 366 faits antisémites enregistrés depuis le début de l'année en France, en hausse de 300% par rapport au premier mois de 2023. Deuxième jour en France pour le président chinois Xi Jinping qui a dîné d'État hier soir à l'Élysée et qui va découvrir les Pyrénées aujourd'hui. Le sommet du Tourmalet, précisément sur les terres familiales d'Emmanuel Macron qui a ses habitudes. Les deux présidents vont déjeuner dans un chalet à 2000 mètres d'altitude. Alors en attendant le service tout à l'heure à midi, eh bien le patron des lieux, Éric Abadie, nous donne ce matin sur RMC le menu et le programme du déjeuner.
Je fais rien d'exceptionnel, je fais ce que je sais faire. Ma cuisine du terroir, on va mettre de la garbure, de l'agneau de lait confit, ce qu'on fait habituellement. On a des produits qui sont reconnus au niveau international, puisqu'on a le porc noir, c'est un des meilleurs champions au monde. Donc, on met nos produits en avant. Et après, bon, il voulait une tarte aux myrtilles, donc on y a fait une tarte aux myrtilles, voilà.
C'est un mardi qui ressemble à un vendredi. C'est le dernier jour de la semaine pour beaucoup de Français avec demain le 8 mai et dans la foulée le pont de l'Ascension. Seulement 18 jours ouvrés sur les 31 du mois. Un de moins que l'année dernière. Ça fait du repos, c'est vrai, quand on peut en profiter. Mais ça coûte aussi une petite fortune à l'économie. Hein, Solène Gardry, entre 4 et 6 milliards d'euros, nous dit l'INSEE.
Oui, certains secteurs sont pénalisés par le mois de mai. Selon l'INSEE, un jour férié coûte 1,5 milliard d'euros à l'économie française en ralentissant l'activité du bâtiment ou de l'industrie, explique l'économiste Mathieu Plane.
Quand vous avez des chantiers en cours de construction, notamment quand vous avez des secteurs industriels qui fonctionnent quasiment 24 heures sur 24, si vous avez moins de manœuvres ou moins de personnes disponibles, ça va avoir un ralentissement sur l'activité de façon assez évidente.
Mais cet impact négatif est rattrapé sur le reste de l'année, rassure-t-il.
Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ça est anticipé. C'est pas comme une grève dans laquelle vous avez un blocage de la production qui serait pas anticipé. Là, les entreprises s'organisent face à cet événement qui est relativement récurrent. Donc, il faut pas juste se focaliser sur un mois qui est très spécifique.
D'autant que d'autres secteurs voient de leur côté leur activité augmenter, les transports, la culture ou encore le tourisme. Par exemple, au mois de mai, les hôteliers notent en général une augmentation de plus de 20% de leur chiffre d'affaires par rapport à un mois d'hiver.
C'était une promesse du gouvernement dans le cadre de la réforme du bac pro depuis la rentrée, promesse de rémunérer les stages de 50 jusqu'à 100 euros par semaine. Ça concerne près de 630 000 élèves de la seconde à la terminale. Et bien, c'est une information à RMC ce matin seulement. 300 000 lycéens ont été payés, seulement la moitié. Donc, le ministère de l'Éducation promet que tout sera réglé avant les grandes vacances cet été. Puis, il y a un Français qui a brillé cette nuit aux États-Unis. C'est, devinez qui ? Victor Wembanyama, basketteur désigné rookie de l'année pour ses débuts en NBA. C'est la première fois qu'un Français obtient cette récompense de rookie de l'année, meilleur jeune. Donc 21 points par match en moyenne pour lui cette saison, alors qu'il joue aux Spurs, une des plus mauvaises équipes du championnat nord-américain de basket.
Et ça se passait donc aux États-Unis. Et ici, c'était le journal de Quentin Vinay. Il est 8h08 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Alors ce soir, la France s'arrête, ou presque, le pont de l'Ascension, ça veut dire un ralentissement de l'économie. Oui, sauf pour le tourisme, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Et c'est le parti pris de Didier Arino du cabinet Pro Tourisme. Pour lui, son parti pris, c'est de dire que c'est une chance, et c'est une chance pour la France. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h11, il y a ceux qui restent, il y a ceux qui bossent, et puis il y a ceux qui partent.
Le parti pris.
Mais qui partent pour la plupart en France. Et c'est votre parti pris, Didier Arino, ce matin. Bonjour. Vous dirigez le cabinet pro-tourisme. Alors, on a entendu les économistes qui disaient c'est une catastrophe, cette France à l'arrêt, dans un moment où on a besoin de remplir les caisses de l'État. Ça va coûter 1,5 milliard d'euros. Voilà ce que nous dit l'INSEE, cette France à l'arrêt à partir de ce soir. Sauf que vous, votre parti pris, Didier Arino, c'est que c'est une très bonne nouvelle pour tout un secteur de l'économie.
C'est une excellente nouvelle pour tout un secteur de l'économie. C'est près de 2 millions de Français qui travaillent directement dans le secteur du tourisme. C'est 6 millions si on prend les emplois indirects et induits. C'est près de 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est un solde de plus de 10 milliards d'euros de la balance des paiements. Donc, en résumé, le secteur du tourisme est une économie majeure pour notre pays qui permet aussi l'équilibre de nos territoires. Sans le complément de l'activité touristique, nous aurions une désertification de bon nombre de nos provinces, et notamment à la campagne, à la montagne et dans les espaces balnéaires. Et si, dans les années 60, il y a eu une volonté d'aménager notre pays comme une destination touristique, avec le plan Racine, toutes les stations que l'on a en Languedoc-Roussillon ont été créées artificiellement, que ce soit Gruissant, la Grande Motte, Port-le-Cate, l'aménagement de la montagne qui fait de nous une destination majeure en tourisme de montagne, et notamment pour le ski. Donc on voit bien que ce secteur, il est fondamental, sans oublier le moral de nos concitoyens. Dans un contexte anxiogène, les Français ont besoin de ces vacances, de ces breaks. Ça fait faire des économies à la sécurité sociale. Ça évite alors, de consommer.
J'avais pas pensé que vous iriez jusque là, Didier Rinaud, dans l'idée que c'était très bon pour l'économie française et qu'effectivement ça faisait faire des économies à la sécu. Didier Rinaud, quel est le pourcentage de remplissage, à la fois, j'allais dire, auberges, hôtels, chambres d'hôtes, mais aussi camping et restauration. Ils affichent effectivement plein là pour tout le week-end?
Alors, pas totalement plein pour le pont, ou plutôt le viaduc du 8 mai, mais on a beaucoup de retard, puisque le 1er mai, du fait d'une météorologie médiocre, les taux de remplissage étaient relativement faibles dans notre pays. On est à moins 10% sur les vacances de Pâques, et on a besoin véritablement de lancer la saison avec ces grands ponts du mois de mai qui démarrent véritablement ce soir. Aujourd'hui, on est aux alentours de 70% de taux de remplissage pour nos hébergements touristiques, mais nous avons besoin de ce mois de mai.
Quels sont les secteurs qui souffrent encore un peu? C'est-à-dire que là, vous dites, c'est quand même un vrai booster pour tout le milieu du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie. Quels sont les points sur lesquels aujourd'hui c'est le plus difficile?
Alors, notamment, l'espace qui est en difficulté en ce moment, c'est le balnéaire, parce que la météorologie était tellement médiocre que les restaurateurs n'ont pas fait le plein, les hébergeurs se retrouvent avec du retard par rapport aux années précédentes, mais on a aussi véritablement un besoin d'activité dans nos zones rurales, même si certains d'ailleurs tirent leur épingle du jeu, et notamment les locations de meublés, qui sont plutôt bien réservées cette année, comme le montre Gîte de France, mais on a véritablement, pour ceux qui sont des gros pourvoyeurs d'emplois, besoin d'une belle activité. Il ne faut pas oublier qu'un village de vacances comme Cap-Fran, c'est près de 100 emplois. Le Club Med, c'est 600 emplois entre les emplois directs et indirects d'un Club Med à la montagne. Donc, c'est véritablement une économie majeure pour le bon nombre de territoires. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait du tourisme. On ne fait pas seulement du tourisme parce qu'on aime les touristes, on fait du tourisme pour vivre au pays, pour avoir des retombées économiques, sociales dans nos territoires, et puis pour pouvoir faire vivre aussi, via les circuits courts, nos agriculteurs, nos viticulteurs, nos ostréiculteurs.
Et on l'entendait d'ailleurs avec tout à l'heure le chef, le patron de l'auberge du Berger à la Mongie, qui va accueillir tout à l'heure le chef de l'État et le président chinois, qui nous parlait justement du fait qu'il travaillait avec des producteurs locaux, donc les restaurants, c'est aussi ça. Didier Rinaud, est-ce qu'on a un petit recul sur le week-end passé? C'était pas vraiment un pont, les gens se sont plutôt concentrés sur ce pont aussi qui vient, le viaduc, comme vous dites, mais autour du 1er mai, est-ce qu'on a un premier retour?
Oui, c'est un retour qui est décevant, puisqu'on est à moins 10 points par rapport à l'an passé. D'ailleurs, vous évoquiez Éric Abadie, le berger qui va faire le repas à l'étape du berger au Tourmalet. Ben, il est véritablement l'emblème de l'importance du secteur du tourisme. Lui, il était berger. Son activité au départ, c'est berger. Et c'est l'activité touristique qui lui permet non seulement de mettre à l'honneur ses produits en devenant restaurateur, d'éviter de passer par des intermédiaires. Là, on est véritablement dans le circuit court où il vend l'agneau qu'il élevait. Et donc, véritablement, c'est un bon exemple. Et quand on voit dans ces vallées pyrénéennes, c'est le secteur du tourisme qui permet d'avoir de formidables produits et pas des produits aseptisés avec de vraies appellations comme le porc noir de Bigorre. On le voit aussi dans bon nombre de nos territoires, où les circuits directs sont fondamentaux. Je pense notamment dans les Corbières, avec la vente directe au caveau. Je pense aussi à l'importance du secteur du tourisme. Quand on prend une station comme Bagnoles de l'Orne en Normandie, c'est un îlot d'activité
Et qui
avec
permet de rayonner,
création d'emplois
et qui permet effectivement à ces territoires de rayonner. Merci en tout cas d'avoir défendu avec vigueur votre parti pris, Didier Arinaud, ce matin. Vous dirigez le cabinet pro-tourisme et on l'a compris, pour vous, ce grand pont du 8 mai et de l'Ascension, c'est une chance pour la France. Vous avez parlé du port de Bigorre. J'ajoute qu'il nous a parlé aussi de l'agneau confit, hein, oui, tout à l'heure, le Eric Abadie. Il est 8h18.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Bonjour à tous.
Arnaud de Manche est avec nous. Salut Arnaud.
Alors c'est tous les jours de manche, mais ce soir ça n'est pas moi. Ce soir c'est PSG. C'est PSG. Paris joue pour une place en finale de Ligue des Champions pour Charles Magnin. C'est la journée de toute l'année. Charles, il répète depuis une semaine comment chambrer les supporters allemands qui seront à côté de lui. Je le vois dans les couloirs, il a son casque sur les oreilles avec Duolingo, il s'entraîne. Dortmund, du hast es im Arsch. Ce qui veut dire, Dortmund, tu es en train de vivre un dépistage des maladies colorectales. Je l'ai fait poli parce que sinon... Ou encore, Deutsche, das einzige Gras, das ihr im Finale sehen werdet, sind die Beine eurer Mutter. Ce qui veut dire, les Allemands, la seule pelouse que vous verrez le jour de la finale, c'est les poils de jambes de vos mères.
Mais non!
Mais pas celle-là!
Elle est sympa!
Et avec
bon l'accent,
accent.
L'accent. Oui. Et j'ai fait allemand deuxième langue, j'ai eu 18 au bac. Et puis, bien sûr, bitte meine Herren, gib mir meine Hose zurück. S'il vous plaît, messieurs, j'avais rendez-moi mon pantalon. Des fois que ça tourne mal, on
ah
sait
oui,
jamais.
Possible aussi, ouais.
Ça peut mal tourner. À part ça, Apolline, vous receviez hier Marine Le Pen, qui a déclaré sur votre antenne, je ne suis pas raciste. Et sur CNews, ils ont tous fait, ah bon? Mais pourquoi on vote pour elle alors? Ils étaient dégoûtés. Et vous l'avez mise en face d'une de ses grosses contradictions. Elle se dit pour l'Ukraine, mais elle met Thierry Mariani sur sa liste pour les européennes. Alors Thierry Mariani, on ne sait pas forcément qui c'est un député pro-russe qui a même été surveillé par la DGSI, nos renseignements intérieurs. Il le soupçonne d'être un relais du Kremlin. Thierry Mariani, voilà, il aime bien Poutine. Il aime bien aller en Russie, il écrit à Vladimir le soir, « Bonne nuit Bibou, tu m'as trop manqué aujourd'hui ». Il répond à ses stories avec des petits smileys qui ont des cœurs dans les yeux, il envoie des nudes. Oh, « Bibou, comment tu me trouves avec le nouveau slip que tu m'as offert ?» C'est courant dans les couples, voilà, quand on offre de la lingerie, tu fais des petites photos chaleur-chaleur, ça fait plaisir. Et ben hier, Marine, crac, je suis pour l'Ukraine. Mariani, il a dû paniquer. Il a dû, je t'assure, Bibou, je sais pas ce qui lui prend. Me dis pas que c'est pour ça que tu m'as offert des slips. Parce que là, il doit aller passer au compteur Gégère pour vérifier qu'ils sont pas au plutonium et radioactifs. Comme ceux de Navalny, il s'est fait empoisonner comme ça par Poutine. Alors, à propos de femmes de droite, Sarah Knafo, la compagne d'Éric Zemmour, est sortie du silence hier suite à cet horrible attentat aux œufs dont a été victime son homme. Car une femme a jeté un œuf sur Éric Zemmour ce week-end. Éric Zemmour devait-il frapper cette femme en retour? Réponse de Sarah Knafo.
La légitime défense, c'est la loi. Et je n'ai pas envie de vivre dans un pays où on a le droit de réagir que quand on est mort.
On est mort après un jet d'œuf.
On
peut mourir. Voilà, un œuf peut vous tuer. Non mais c'est bien la peine d'interdire les armes à feu dans ce pays si c'est pour laisser les œufs en vente libre. À un moment, je suis désolé. Macron, il va appeler Zelensky. Bonne nouvelle pour l'Ukraine, Volodymyr. Ah oui. On va vous livrer des œufs. Vous les lancez très fort sur les tanks russes et la victoire ne sera plus loin. Alors après son attentat à l'œuf, Éric Zemmour a été pris en charge par son garde du corps qui a dit « Monsieur Zemmour, vous voulez qu'on appelle les poulets ?» Non. On commence par jeter des œufs et après on va battre les blancs. Voilà. Alors on a l'enregistrement. Bah oui.
Ok.
Bah oui.
Okay.
Alors on a l'enregistrement de la suite de l'altercation.
À moi. Arrêtez-le, attrapez-le. C'est un voyou qui veut m'assassiner. Au cachot.
Oui, mais calme-toi, Eric, quand même. Ça n'est qu'un œuf.
Au cachot.
La tête de liste LFI, Manon Aubry, a publié sur ses réseaux une affiche intitulée « Ces députés qui s'en mettent plein les poches, en plus de leur indemnité d'élu ».
Ouais, alors c'est un visuel avec des visages et des sommes. Il y a un peu de tout là-dedans. Il y a des droits d'auteur. En fait, elle entretient l'amalgame entre la corruption et les revenus annexes. Mmh. C'est très populiste et pas très précis. Par contre, on peut lire que François-Xavier Bellamy, il gagne entre 12 000 et 66 000 euros par an. C'est quand même la grosse fourchette, quoi. Soit il roule en berline de luxe allemande, soit en Kangoo d'occasion. Quelle honte. C'est archi démago. Elle est à deux doigts de faire des visuels. Tous les soirs, Raphaël Glucksmann dort dans un lit.
Valérie Yeyé mange 3 fois par jour. Marie Toussaint possède 32 dents et blanche, alors que chez nous, Jean-Luc Mélenchon, il en a que 29 et elles sont jaunes. Comme vous, le peuple, on est avec vous. En tout cas, Manon Aubry, elle, elle a 0 euro. Voilà, poum, éligible au RSA. Son slogan, ça va être quoi ? Je suis nul pour gagner de l'argent, votez pour moi, je m'occuperai des finances de l'Europe. Eh ben, c'est pas très convaincant. Même en vendant tes vieilles fringues sur Vinted, Manon, tu peux te faire 50 balles par mois. Alors bon, on sait qu'elle vend pas ses vieux vêtements, hein, visiblement, elle les porte. Mais quand même, il y a des astuces à trouver.
Et puis Bernard Pivot nous a quitté, Arnaud.
Oui, dites donc, entre la mort de Bernard Pivot, la fin des chiffres et des lettres, moi je serais Michel Drucker, j'irais faire un petit check-up, on sait jamais. Donc, oui, mais on l'embrasse. Donc, l'écrivain et animateur bien connu est décédé. Alors soit il a très mal supporté l'arrêt des chiffres et des lettres, soit il a eu une rupture d'anévrisme en essayant de déchiffrer les textes d'Aya Nakamura pour la cérémonie d'ouverture. La France pleure donc un homme qui lui a fait faire des dictées. C'est quand même le truc que tout le monde déteste. Mmh. Et on l'aimait bien quand même. Pourtant, c'est comme si on pleurait la disparition d'un contrôleur fiscal. Et vous avez vu qu'on arrête les chiffres et des lettres, j'en parlais à l'instant. Heureusement, pour remplacer, notre direction a pensé à lancer un jeu dont on a déjà parlé, le chiffre et des lettres.
Ah, oh,
le retour.
Bien ça.
Bonjour, bienvenue dans Le chiffre et des lettres, avec deux invités aujourd'hui, Kevin Le Chypre et Éric Zemmour. On en était aux voyelles, je crois qu'on en avait 3. Kevin.
Arrêtez de me jeter des E, je peux mourir. On peut mourir à cause des E.
Au cachou, au cachou, au cachou. Portez-moi sur les coussins.
Bon allez, bonne journée. Vous vous souvenez du film, quand même. Allez, bonne journée. Gros bisous. Allez Paris, encouragez
bisous,
Charles.
Bisous.
Allez, hein. Et à la oui, il faut que j'aille me reposer moi.
Allez, il est 8h24. C'était Arnaud Demange, bien sûr, mesdames, messieurs. Dans un instant, le face à face. Mon invité, c'est l'écrivain et réalisateur Yann Moix. On reviendra sur son voyage en Corée du Nord avec Gérard Depardieu, bien sûr, dont les images avaient créé une immense polémique autour de l'acteur. C'est sa première réaction à la télévision. Yann Moix, donc, qui est mon invité dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Yann Moix.
Bonjour Apolline.
Merci d'avoir accepté. Ça va bien, ça va bien. On va voir si vous, ça va bien aussi, parce que vous publiez donc ce petit livre, on va y revenir, ce petit livre qui s'appelle Visa. Un livre étrange, une sorte d'objet non identifié où vous racontez un dialogue semi-imaginaire avec un agent de la Corée du Nord. La Corée du Nord, on n'en a jamais autant parlé qu'à cause de vous, ou avec vous, ou grâce à vous. Ces images qui sont ressorties, ces images qui avaient été tirées d'un film, vous allez nous raconter dans quel contexte, qui ont entraîné à nouveau un épisode du terrible feuilleton Gérard Depardieu. Mais je voudrais d'abord, Yann Moix, on va parler de liberté, on va parler de violence, on va parler de cinéma, on va parler d'antisémitisme aussi, mais donner la parole à Bernard Pivot que vous avez bien connu, qui est mort hier et qui a souvent parlé de vous aussi, Yann Moix. Et j'ai retrouvé ces mots, il dit « Je pense que Yann Moix a un très grand talent, un talent immense, mais il a un talent immodéré de la contestation, de la provocation, des sunlight. C'est un écrivain surdoué, mais si je peux lui donner un conseil, et je peux, car je suis plus âgée que lui, ce serait de se couper des médias, de rentrer chez lui, de rentrer à l'intérieur de lui-même, dans la paix, dans le silence, pour écrire les grands livres qu'il porte en lui, et peut-être avoir le Goncourt comme il le souhaite. » Au fond, j'aurais peut-être pas dû lire ça, parce que je me demande un peu du coup ce que vous faites là.
Non, au contraire, je travaille énormément dans la paix et l'intériorité de mon être. Je lis énormément. Et c'est d'ailleurs les deux occupations principales de mon existence. Et je trouve parfaitement normal qu'un écrivain, comme ça a toujours été le cas, chère Apolline, toujours, prenne la parole. Sauf qu'aujourd'hui, c'est dans les médias audio et télévisés. À l'époque de Gide et de Camus, c'était essentiellement dans la presse écrite. Mais il est parfaitement normal qu'un écrivain s'engage, dise ce qu'il pense, pour une raison simple. C'est que les journalistes ont une façon de voir les choses, qui est d'ailleurs très utile pour les écrivains, mais pas que. Et les écrivains ont une manière différente d'appréhender l'actualité par un prisme qui est le leur. Et je crois que les deux se complètent parce que l'actualité est tellement complexe que c'est bien que les écrivains...
C'est ce qu'on va essayer de faire ce matin avec votre regard sur notre époque, puisqu'on parlait de Bernard Pivot. Est-ce qu'il fait partie aussi pour vous de ceux qui vous ont fait aimer les livres ou vous permettent aussi de parler des livres au plus grand nombre?
Ah, Bernard Pivot m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que je n'avais pas le droit de regarder la télévision quand j'étais petit. Et c'est son émission qui m'a donné envie d'être écrivain. Parce que ce n'est pas lui personnellement, c'est les gens qui l'invitaient. J'ai vu pour la première fois de ma vie Nabokov quand j'avais 8 ans à apostrophe. Et Nabokov, pour moi, c'était un personnage inoubliable. Je me souviens très bien de la fois où j'ai vu aussi Bukowski. Je me souviens très bien la fois où j'ai vu Solzhenitsyn. Alors avec un peu plus de... quelques années plus tard, mais il y avait beaucoup de rediffusions. Et Bernard Pivot avait toujours l'intelligence de mélanger des écrivains français avec des grands écrivains internationaux, et donc c'était pas du tout une vision franchouillarde de la littérature. Pivot m'a fait comprendre que la littérature n'était pas simplement des gens qui racontaient des histoires, mais des gens qui avaient quelque chose à dire sur l'être humain. C'est une vraie perte parce que c'est quelqu'un d'à la fois très populaire, très simple, mais aussi quelqu'un d'extrêmement profond et de très intelligent, et qui aimait le foot, le vin et la littérature, pas les livres. La littérature, les livres, ça n'a aucune importance. C'est la littérature qui compte. Et des grands écrivains, il y en a 4-5 par décennie. Et Pivot ne les a jamais ratés, ceux-là.
Il ne les a jamais ratés. Yann Wax, vous publiez ce petit livre étrange, ça s'appelle Visa. C'est une sorte de pièce de théâtre, de dialogue entre vous, que vous décrivez, vous vous auto-décrivez comme un indécrottable petit bourgeois parisien, et face à vous, un agent administratif de la Corée du Nord. Je voudrais quand même comprendre votre fascination, assez sordide quand même, pour la Corée du Nord, et ensuite l'idée même d'emmener un Gérard Depardieu en Corée du Nord.
Alors, je ne vous permets pas de dire que la fascination est sordide pour une raison très simple, Apolline. C'est un pays extrêmement mal connu. C'est un ailleurs.
Bah de fait, il est mal connu parce qu'on ne peut pas y rentrer. Sauf après un si long dialogue.
J'y suis allé 4 fois, on peut donc y rentrer. Si vous voulez, c'est un ailleurs. Dans un monde où tous les pays se photocopient les uns les autres. Dans un monde où chaque aéroport est le jumeau de l'aéroport précédent. Vous allez à Manaus, c'est exactement le même aéroport qu'à Londres ou à New York. La Corée du Nord est un ailleurs. Et j'aimerais aussi vous préciser que dans cet ailleurs, contrairement à ce que les gens s'imaginent, il y a des gens qui habitent. Il y a une population en Corée du Nord. Il y a des citoyens nord-coréens. Il y a des habitants des villes nord-coréennes. Et bien sûr que vous ne pouvez pas aller en Corée du Nord, que vous soyez journaliste ou écrivain, sans que le régime vous y autorise. Donc, bien sûr que...
Vous y autorise et vous y surveille.
Bien sûr.
Vous y accompagne dans chaque mouvement.
Vous avez deux guides en Corée du Nord qui se surveillent l'un l'autre et qui vous surveillent. C'est comme la Russie ou l'URSS des années 60 ou 50. Et c'est un pays qu'il est extrêmement difficile de comprendre à travers la littérature qui y est consacrée. Pour comprendre ce pays, comme disait Hemingway, il faut aller voir, il faut y aller physiquement. Et c'est pas le seul pays étrange qui m'intéresse. J'adore voyager. Je suis allé en Syrie, je suis allé en Albanie, je suis allé en Corée du Nord. Mais d'abord, c'est la culture coréenne dans son ensemble qui m'intéresse. Et je m'aperçois que la Corée du Sud et la Corée du Nord ont beaucoup de points communs. Donc, connaissant bien la Corée du Sud, je voulais connaître le Nord.
Et vous avez donc été connaître le Nord.
Mais ce n'est pas plus sordide qu'autre chose, c'est un voyage.
C'est un voyage. Alors, vous parlez de cette population, on se dit quand même qu'elle souffre, cette population, et vous en parlez presque comme si vous alliez regarder un tableau.
Pas du tout, d'ailleurs, je parle de la souffrance de la population. C'est un pays extrêmement douloureux, qui a une histoire douloureuse, qui a hérité sa violence de l'occupation japonaise. C'est un pays, la Corée a été occupée pendant 40 ans par les Japonais. Vous imaginez si les Allemands nous avaient occupés pendant 40 ans, le traumatisme que ça laisse. C'est un pays passionnant. Et si on veut comprendre aussi la Chine, c'est intéressant de comprendre la Corée du Nord, parce que la Chine fait souvent faire le sale travail par la Corée du Nord. Et ça sert d'état tampon, la Corée du Nord, entre l'Occident, les États-Unis, parce que les Américains sont encore en Corée du Sud, et la Chine. Donc la Corée, Sud et Nord, c'est extrêmement intéressant.
Yann Wax, vous avez emmené Gérard Depardieu en Corée pour y réaliser un film. Des images de ce film ont été publiées, montrées par l'émission Complément d'enquête. Depuis, vous avez même porté plainte contre eux. A-t-il, Gérard Depardieu, oui ou non, prononcé les mots assez infâmes qu'on a entendus?
Alors, d'abord, c'est pas des images de mon film, c'est des images volées d'un film qui ont été diffusées. C'est-à-dire que le producteur m'a volé un film qui s'appelle 70, qu'une centaine de personnes ont vu, dont certains de vos confrères et consoeurs. du monde, notamment. Ce film fait 2h30. C'est un film burlesque tourné en Corée du Nord. Alors après, on peut s'interroger sur le bien fondé de faire un film burlesque en Corée du Nord.
Mais avec Gérard Depardieu.
Tout simplement, avec n'importe qui. Gérard Depardieu, quand je suis allé en Corée du Nord en 2018, avait eu une plainte. Une plainte. Une plainte qui n'avait pas été jugée, qui n'avait pas été...
Depuis, il y a 2 plaintes pour viol, 3 plaintes pour agression sexuelle, et il sera jugé en octobre prochain.
Une plainte, c'est-à-dire que quelqu'un avait porté plainte. Je crois quelques jours avant qu'on parte. Nous sommes partis faire ce voyage, j'ai tourné un film de fiction. Alors tout le monde me dit, oui, c'est pas possible, parce qu'un film de fiction, c'est un scénario. Mais si je vous citais le nombre de films dans l'histoire du cinéma qui ont été faits sans scénario, de Pierrot le Fou à In the Mood for Love, c'est une manière de faire du cinéma que de trouver le genre du film au montage. J'ai passé 3 mois au montage, j'arrive avec un film de 2h30, et le producteur, M. Anthony Dufour de chez Ikari, se dit, zut, on ne pourra pas sortir le film en salle comme prévu, puisque Gérard a des gros problèmes avec, aura des gros problèmes avec la justice. Qu'est-ce qu'il fait pour retrouver ses billes? Plutôt que de ne rien faire avec le film, plutôt que d'essayer de voir ce qu'on peut faire du film, sans me prévenir, alors que j'ai un droit moral sur mon film, il va à France Télévisions, leur propose un sujet sur Gérard Depardieu en disant « J'ai des images, oubliant que ce sont mes images, qui vont être détonnantes et scandaleuses. » Or, ce n'est plus ni moins que des images qui ont été arrachées à un film de fiction pour les mettre dans un film documentaire à charge contre Gérard Depardieu et... avec cette bidouille dont j'attends encore que l'ARCOM enquête dessus, mais malgré mes lettres, l'ARCOM ne fait rien, et France Télévisions, que je mets en procès, n'a encore pas répondu.
Eux, ils affirment, hein, et c'est qu'ils n'ont absolument pas fait de montage, hein, et qu'ils n'ont pas mélangé ou dispatché ou décalé l'image et son.
Pauline, 2 choses. Personne n'a jamais vu le constat de l'huissier. Jamais. J'ai demandé au tribunal, il y a un procès en ce moment, on n'a pas vu le constat de l'huissier. C'est très étrange. Et 2, Le Monde, le journal Le Monde Magazine, c'est pas moi. Le Monde Magazine a vu mon film et un des journalistes du Monde dit, effectivement, dans la version d'Yann Moix, on voit que Gérard Depardieu tient ses propos sur une femme de 35 ans.
Vous parlez des propos et ce qui a fait particulièrement réagir, les propos sont assez immondes, mais l'image, effectivement, qui est raccord dans Complément d'enquête, c'est que ces images assez immondes, ces propos immondes, sont au moment où c'est une fillette qui monte à cheval.
Vous savez, dans un montage, on peut faire absolument ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a une seule image?
Donc vous dites, attendez, oui. Yann Moix, je voudrais qu'on comprenne. Oui. Vous dites, oui, Gérard Depardieu a tenu ses propos, ses propos sur en regardant une femme,
exact.
Mais non pas une fillette. Mais vous dites bien qu'il a tenu ses propos.
Il a tenu ses propos sur une femme de 35 ans.
Vous en pensez quoi, vous, de ses propos?
Les propos sont ignobles. Mais attendez, Apolline, des propos ignobles, ou inexcusables, ou choquants, ou violents, ou sinistres, sur une femme de 35 ans, c'est une chose. Sur une enfant, ça fait de Gérard Depardieu un criminel. Ça fait de Gérard Depardieu un pédophile. Ça fait de Gérard Depardieu un être qui est tout d'un coup puni pour quelque chose qu'il n'est pas. Qu'il n'est pas. Et je trouve gravissime. Vous imaginez ces gens dans la boîte de production de chez Ikari qui tout d'un coup se disent... Mets les images sur la fillette, allez, vas-y, mets les images sur la fillette. Mais c'est d'une brutalité, d'une violence absolument inexcusable. Et ça, ça mérite un procès. L'ARCOM devra s'en expliquer, France Télévisions devra s'en
L'ARCOM,
expliquer.
L'ARCOM, c'est le gendarme de l'audiovisuel. Hein.
D'ailleurs, je peux dire quelque chose sur l'ARCOM.
Allez-y.
Je trouve qu'on baigne dans l'immaturité la plus totale. Un pays comme la France a besoin d'avoir inventé une institution qui vient toute la journée... Regardez des émissions, par exemple, viens regarder Cyril Hanouna toute la journée pour savoir.
Donc vous avez été chroniqueur, hein, je précise.
Oui, non, mais je prends cet exemple, je peux en prendre.
Oui, mais c'est important quand même de savoir aussi que vous êtes.
Mais peu importe, c'est.
Impliqué, j'irais.
Non, je veux dire par là que j'ai toujours trouvé l'ARCOM. Avant, ça s'appelait pas l'ARCOM. Hein.
Ça s'appelait, le CSA.
Le CSA. Vous imaginez quand même qu'un pays comme la France, où il y a une liberté de parole. Vous regardez les sites de l'INA, vous pouvez voir des gens qui fument, qui boivent et qui débattent.
On parlait de Bernard Pivot tout à l'heure.
Et qui débattent. Parce que je vois quelque chose d'assez étrange, Apolline. J'imagine que vous avez souvent été voir des documentaires sur l'INA ou des vieilles émissions. Oui. Et c'est quand même étrange qu'il y a une simultanéité du débat et de l'alcool et de la cigarette. Non mais c'est très étrange. L'ARCOM est une sorte d'âge de gendarme qu'on s'est inventé nous-mêmes pour nous fliquer nous-mêmes. Comme si on n'était pas assez grand pour faire un travail de débat démocratique avec les débordements qu'on souhaite s'il le faut. Tandis que là, on a l'impression qu'on s'est inventé un gendarme
en même temps,
sur mesure.
Là, il vous comme arrange, si on était des enfants. L'ARCOM. Enfin, en tout cas, vous espérez que l'ARCOM sera de votre côté.
Ce qui est très étrange, c'est que l'ARCOM essaye de punir mon avocat qui est allé expliquer la thèse du bidouillage de l'information. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que l'ARCOM fasse son travail. Pourquoi est-ce que l'ARCOM n'enquête pas sur le rapport de l'huissier? Pourquoi l'ARCOM ne travaille pas sur le bidouillage acheté par France Télévisions? Car je ne pense pas que ce soit France Télévisions qui est bidouillé. Ils ont acheté un reportage bidouillé.
Donc vous ne pensez pas que France Télévisions a sciemment...
Non, je ne pense pas que ce soit sciemment. Ils se sont retrouvés dans une impasse et depuis ils bottent en touche et ils cachent le rapport de l'huissier. Je demande à un expert indépendant pour analyser les rushs. Vous savez, Apolline, il y a des bandes de synchronisation sur les films. Donc c'est très facile de montrer que...
Yann Moix, vous le voyez toujours, Gérard Depardieu, est-ce que vous en parlez avec lui?
Non, je ne le vois pas en ce moment, je n'ai pas de nouvelles. Je crois que Gérard, si elle m'en veut, de l'avoir emmené en Corée du Nord, parce que moi j'ai fait confiance à un producteur qui m'a trahi, mais Gérard, il m'a fait confiance à moi, pas au producteur. Donc indirectement, il se retrouve dans une sauce nord-coréenne, tout simplement parce qu'il m'a fait confiance.
Yann Moix, il y a le Festival de Cannes dans quelques jours et des rumeurs, un peu une sale rumeur qui court. Plusieurs s'en font écho, des journalistes qui disent qu'il y aura une liste, on ne sait pas très bien d'où elle sortirait, mais une liste de 10 nouveaux noms du MeToo du cinéma. Est-ce qu'il faut, comme ça, sortir des listes si effectivement les gens ont eu des comportements déplacés, voire même coupables? Est-ce qu'il faut que cette liste sorte? Est-ce qu'il faut purger?
J'y suis absolument défavorable. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, vous savez que je suis un ancien enfant martyr, etc.
Alors ça, c'est votre version. Vos parents ont tenté de vous poursuivre. mais vous avez gagné, vous avez obtenu gain de cause.
Vous ne pouvez pas
la
dire...
Justice,
on m'a suffisamment accablé.
Ils n'ont pas pu vous poursuivre.
J'ai gagné mon procès.
Voilà.
C'est-à-dire que la justice a considéré qu'il y avait des éléments suffisamment sérieux pour considérer que j'avais été un enfant martyr. Donc j'ai gagné le procès. C'est un procès qui a duré 8 heures. J'y étais, mes parents y étaient, mes géniteurs, pardon. Donc je peux, s'il y a une justice. Et c'est marrant ce que vous dites parce que vous êtes en train de dire que la justice finalement.
Non, ils ont tenté de vous. Il est clair, et je crois qu'il est factuel de dire que vos parents ont tenté de vous poursuivre pour diffamation.
Oui, donc il n'y avait pas diffamation. Donc ce qui prouve bien que ce que je racontais dans Orléans était la vérité. Non, je vais vous dire pourquoi je suis défavorable. Je n'ai aucun humour sur les violences, sur les enfants, sur les femmes, sur les animaux. Je ne mélange pas ces trois catégories, que les choses soient claires. Les violences faites aux femmes, les viols, les brutalités, et même les incivilités, les mains aux fesses, les petits gestes qui sont en fait consubstantiels à un climat général de violence, il faut que ce soit fait avec beaucoup de méticulosité. Si ça bave, si ça déborde, alors le combat va être déconsidéré par approximation successive.
Vous avez peur que ça soit défavorable au mouvement MeToo et à la véritable liberté?
Exactement. C'est-à-dire qu'on a une chance incroyable, Apolline. On a une justice en France qui est certes débordée, mais qui fonctionne. On a une belle justice. On s'est battu, des gens sont morts en 1848, en 1830, en 1789, en 1940, pour que cette justice puisse fonctionner. La République, c'est une chose, mais on oublie toujours que la République, c'est aussi la justice. Et on a une justice qui fonctionne très bien, une belle justice, et je trouve dommage que des gens pressés, et on peut comprendre que des victimes soient pressées, c'est humain, mais je trouve dommage que les victimes n'attendent pas, que les plaignants ou les plaignantes n'attendent pas quelques mois ou quelques années pour qu'on ait un rendu beau à regarder, c'est-à-dire quelque chose
précis, factuel,
qui est taillé comme un diamant, que la personne,
après une enquête sérieuse,
parce que là, les personnes pourront être punies au prorata de ce qu'elles ont commis, et surtout, l'à-peu-près ne sera plus de mise. Et l'à-peu-près, c'est grave, parce qu'il y a aussi des gens qui se sont mal comportés, et ces gens-là ne peuvent pas être comparés à des gens qui se sont rendus coupables d'un crime. Et j'ai peur d'une assimilation, et j'ai aussi peur d'une chasse aux sorcières approximative. C'est l'approximation qui me fait peur.
Yann Moix, l'antisémitisme. Gabriel Attal, hier, parlait d'un mouvement qui s'était décomplexé. Il y a évidemment les mouvements qui se passent dans les facultés, des mouvements pro-palestiniens, qui, d'après certains témoignages, seraient aussi une forme d'intimidation, voire d'exclusion de certains étudiants juifs. Vous le dénoncez aujourd'hui?
Je pense que ça ne recommence pas, l'antisémitisme. Je pense que la situation n'est pas plus grave qu'elle a toujours été. L'antisémitisme, pour moi, est un commencement. Ça a toujours été un commencement. Un commencement qui diffuse depuis 4000 ans ou 5000 ans. mais ce n'est pas un recommencement. Il y a des périodes où on lève le tapis et on voit ce qu'il y a dessous, des périodes où on rebat le tapis et on ne voit pas les acariens ou les poussières qu'il y a dessous. Mais ça n'a jamais changé.
Ce qui est étrange, Yann Moix, et vous l'imaginez bien, c'est qu'on a du mal à vous croire.
Pourquoi ?
Parce que vous-même, vous avez été, et comment êtes-vous passé de l'étudiant...
Ah, vous en êtes encore là, Pauline ?
Non, ça m'intéresse, je vais vous dire pourquoi. Vous avez, quand vous étiez étudiant, commis des dessins qui allaient dans un antisémitisme épouvantable, avec des propos y compris négationnistes, avec une revue.
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, d'abord, là encore,
c'est... Vous dites d'ailleurs avoir eu honte de cela. Non, ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est de comprendre, a posteriori, vous êtes aujourd'hui un des premiers défenseurs et vraiment un de ceux qui luttent contre l'antisémitisme, comment on a pu être antisémite ?
D'abord, je ne l'ai jamais été. Jamais. Et pourquoi je n'ai jamais été ? Parce que, en fait, vous me reparlez d'un truc d'il y a 5 ans.
Mais oui, mais c'est
ça
très
n'a
important.
Pris, et d'ailleurs, ça
et
n'a jamais pris cette polémique.
C'est très important de comprendre vous passez de faire des dessins antisémites.
Alors, je vais vous répondre de manière brutale. La première, c'est que ces petites bandes dessinées, il y avait 4 numéros. Je redis pour la millième fois. Un, où je me parlais de la Shoah, je me moquais de la Shoah, si vous voulez, j'avais 20 ans. Ensuite, je me moquais de la faim dans le monde. Je me moquais, je crois, des handicapés et je me moquais de l'abbé Pierre. Donc en fait, c'était un petit journal qui se moquait de tous les tabous de l'époque, d'accord ? Dont les Juifs. Mais c'était pas une obsession. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le niveau, c'était du style Lucky Luke à Dachau et les Schtroumpfs à Auschwitz. Hein. C'était pas un journal structuré, négationniste. C'était des sortes de pamphlets potaches, fanzine, si vous voulez.
Mais est-ce qu'il faudrait pas à l'inverse, Yann Moix, dire j'ai eu ces espèces de pulsions.
Mais je ne les ai pas eues. Si vous voulez, il faut quand même que vous considériez quelque chose. C'est sorti, j'avais 50 ans. D'accord ? Toute la journée, Apolline, on nous rebat les oreilles avec des gens qui ont failli tomber dans les marigots les plus sinistres quand ils avaient 20 ans et qui, tel habitant cité, tel en banlieue, tel en... et qui, au fur et à mesure des années, s'est arraché de sa gangue atroce pour devenir celui qu'il aurait dû être. Pourquoi je devrais être le seul dans ce pays qu'on ramènerait systématiquement à sa case de 30 ans...
Pas le seul, Yann Moix. Mais justement,
est-ce qu'on a le droit... Admettons que vous ayez raison, d'accord ? C'est faux, mais pour le débat. Admettons que j'ai eu une phase abjecte. Pourquoi est-ce qu'un individu dans la société n'a pas le droit, par son travail, par son intelligence, par sa culture et par les connaissances qu'il déploie autour de lui, d'évoluer, de changer.
Je crois que vous en avez ce droit, mais c'est important aussi justement de pouvoir le raconter, de pouvoir dire comment on évolue.
Mais je l'ai raconté. En fait, il se trouve que là, c'est un malentendu parce que j'ai pas eu besoin d'évoluer. C'était des crises ponctuelles de provocation.
Vous êtes inquiet sur la situation aujourd'hui ?
Ah oui, je suis très inquiet. D'abord, je considère que les étudiants de Sciences Po sont pour la plupart des gens qui auraient été incapables d'intégrer l'école il y a 15 ans, à l'époque où il y avait un concours.
Vous êtes un ancien élève de Sciences Po.
À l'époque où il y avait un concours. Donc là, on se retrouve avec une poignée de misérables qui intimident une direction qui est d'une lâcheté phénoménale, et qui a accepté de transiger alors qu'il y a quelque chose qui est un marqueur de l'époque. On ne retire pas quelqu'un d'une salle au prétexte qu'il est ou qu'elle est juive. C'est gravissime. Là, il y a un relent d'années 30 qui est que cette école qui a été inventée pour la tolérance, apprendre la démocratie, la République, et pour que le débat se perpétue, se retrouve maintenant dans la caricature d'une sorte de Hezbollah portable ou de Hamas en bandoulière, et qui, toute la journée, agite une haine qui est impropre avec la culture des Sciences Po, qui s'appelait École libre des sciences politiques en 1872.
Merci Yann Moix, on restera sur ce mot de liberté. Yann Moix, votre livre Visa, c'est chez Grasset, il est 8h53.